Bonjour, bienvenue à Apple Différemment. Aujourd'hui, Apple Différemment spécial keynote de printemps. AirTag, iMac, iPad Pro, Apple TV 4K, plein de beaux produits. Et aujourd'hui, ben, on a Audrey, comme d'habitude. Comment vas-tu aujourd'hui, Audrey?
Ça va très bien, merci. Et toi?
Ben, moi, ça va super bien parce que j'ai déjà commandé mes AirTags, mais on en parlera un petit peu plus tard parce qu'on a aussi un invité surprise qui réapparaît dans Apple Différemment. Bonjour!
Ta-dan! Bonjour, je suis l'invité surprise.
Salut Guillaume!
Salut à tous!
Merci Guillaume de venir pour commenter l'actualité de la keynote. Je comprends que tu bascules de podcast, c'est ça? Tu t'en viens dans Apple Différemment, est-ce que j'ai compris ça?
Ouais, ben alors je vais m'incruster un peu plus parce que mes confrères, là, je sais pas ce qu'ils font, mes deux compères en ce moment, donc voilà. Donc j'ai décidé, on m'a proposé, j'ai dit bah écoute, j'ai rien à faire ce soir, hop, allez, je passe. Voilà, je passe un petit peu la tête et on va pouvoir discuter de choses passionnantes.
Et tant qu'à faire un coup de promo, tu viens de quel podcast, Guillaume?
Je viens des podcasts 3 hommes et un podcast que je co-anime avec mes copains Mourad et Laurent. On a sorti un épisode d'ailleurs il y a pas longtemps. Donc voilà, donc on est classé dans les podcasts chez Apple au rythme, on va dire, aléatoire, voilà. ça sort quand ça sort, on va dire.
Excellent, excellent. Bon, écoutez, on a du pain sur la planche, on a beaucoup de choses à discuter, mais juste avant, on a des beaux petits commentaires, Audrey, que tu nous as mis dans la note de l'émission. Ça fait toujours plaisir.
Ouais. Alors, le premier est de... El Koubiak, qui nous dit « Un des meilleurs podcasts consacrés à Apple, bonne humeur, explication claire, conseil, tout est abordable même pour un non-initié, car on ne vous laisse pas dans le flou, ce que j'apprécie beaucoup. Je l'écoute en famille, un vrai bonheur à chaque fois. Merci et continuez comme cela. » Eh bien, merci pour ce beau commentaire à 5 étoiles.
On en a eu beaucoup hein, ce mois-ci. On ne les passe pas tous, parce qu'on a beaucoup de sujets, mais on en a un petit deuxième encore.
Ouais, ok. Alors, je croyais que t'allais le lire. Alors, je voulais réagir sur la durabilité des produits Apple dans l'épisode interdit. J'avais depuis de nombreux mois envie d'avoir un iPhone pour sa simplicité d'utilisation. Comme si j'étais à l'hôtel, je règle certaines choses, mais le principal, c'est Apple qui s'en occupe. Pour la longévité de mon iPhone, ça fait un an et demi que je l'ai et il est comme neuf et fonctionne comme au premier jour. Je trouve qu'Apple est en train depuis quelques années de mettre un point d'honneur sur la solidité et la fiabilité de ses produits pour qu'on puisse les conserver le plus longtemps possible. J'aime beaucoup votre émission en duo.
Ah mince, il faut que je parte parce qu'il aime bien en duo.
Eh ben merci beaucoup. Lyon 2 juillet. Je ne sais pas si ça doit se dire comme ça, mais Lyon 2 juillet. Merci infiniment. Puis non, Guillaume, ça ne te visait absolument pas. Ça visait personne, en fait.
je pense qu'il a raison dans le sens où les... Moi, même par rapport à mon iPad Pro que j'ai acheté fin 2018, ouais. Il tourne vraiment comme au premier jour. Et je me dis, je vais le garder, à mon avis, très très longtemps, tant que je peux faire des mises à jour. Donc peut-être qu'un jour, on va dépasser les fameuses... 5 années de mise à jour et qu'Apple va nous proposer des mises à jour plus longtemps. Ça serait cool.
Ouais. Oui, ça serait cool.
En toute transparence, j'avais un iPad mini 2 il y a plusieurs années que j'ai revendu parce que je trouvais qu'il commençait à perdre un petit peu de vélocité, de rapidité. Et ben j'ai sauté de ce iPad-là à l'iPad Air à l'époque, bref. Mais dernièrement, on s'est fait offrir un vieux iPad 2 pour mon petit dernier qui a 5 ans. Et il y a la dernière version d'iOS que l'iPad 2 peut supporter. Puis franchement, c'est vrai que quand on compare avec les nouvelles tablettes qui viennent de sortir chez Amazon, par exemple, ou d'autres tablettes, ben le vieil iPad 2 mini tient encore très, très bien la route et la concurrence, même par rapport à des produits neufs. Vous aurez compris, c'est un peu de troll de ma part. Audrey, tu avais une actualité par rapport au Apple Care qui va maintenant au-delà de 3 ans sur les Macs.
Alors, je pense que c'est Guillaume qui a dû ajouter ça.
C'est moi qui ai ajouté, parce qu'en fait, on parlait de la garantie des produits. Effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas été annoncé la mardi soir. Mais en fait, normalement, la garantie des produits Apple, donc c'est un an, puis c'est main-d'œuvre par le constructeur, plus la garantie un an européenne, enfin, donc étant la garantie standard du constructeur. Et on peut prendre l'Apple Care, qui normalement prolonge la garantie au total à 3 ans, avec les avantages du contrat Apple Care, ça importe. Et en fait, Apple, a priori, maintenant, permet, dans certains cas... Ils vont élargir cette garantie, on pourra ajouter des années de garantie au-delà de ces 3 ans. Alors, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que souvent, bon, on disait, bon, bah, au bout de 3 ans, je revends la machine parce qu'elle est obsolète, parce que le contrat ne dure plus, et du coup, elle perd en valeur. Mais là, on pourrait faire perdurer encore la valeur, par l'ajout d'un contrat supplémentaire, donc c'est plutôt pas mal, je trouve.
Ouais, c'est cool.
Et puis c'est, ouais, c'est plutôt une bonne chose pour Apple, voilà. Enfin, pour le moment, c'est qu'aux États-Unis, mais c'est quand même, je trouve, plutôt intéressant qu'Apple essaie de pousser ça et dire, ben, ok, votre Mac, vous pouvez le garantir, on peut le garantir encore plus longtemps. Ce que pas mal de constructeurs font, hein. Il y en a beaucoup qui font des garanties à 5 ans ou plus. Qu'Apple pousse un petit peu là-dessus, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait.
Ouais, parce que l'AppleCare n'avait, en Europe, du moins avec la garantie de 2 ans, ça n'avait plus vraiment d'intérêt vu le coût que ça représentait
C'est ça.
de payer 200 ou 300 € pour une année de garantie supplémentaire. Donc, ouais, c'est une bonne nouvelle.
Alors attention, il faut faire attention par contre au fait que la garantie c'est un an par le revendeur en fait, et après c'est un an, enfin c'est un an par le constructeur et c'est un an par le revendeur derrière. Et parfois c'est très compliqué parce que quand le revendeur doit prendre en charge d'acheter votre machine ailleurs que chez Apple, pour qu'il prenne en charge la deuxième année de garantie, des fois le vendeur c'est pas toujours évident. J'ai des fois des conflits un peu avec des opérateurs téléphoniques qui revendent des iPhones et qui disent bah non, on va pas prendre en compte, c'est Apple, et puis Apple disait non non. Regardez, l'Europe, c'est pas comme ça que ça marche, c'est le vendeur qui prend en charge. Donc c'est un peu plus compliqué.
Bon, écoutez, c'est que des bonnes nouvelles pour les consommateurs. On va y aller sans autre forme de procès, comme dirait mon ami Guillaume Vendée, directement sur le Hello Spring, l'événement Apple du printemps 2021 qui était encore une fois en mode vidéo. Moi, je m'en lasse pas. Je trouve que c'est un beau format, mais je serais curieux d'avoir votre avis, Guillaume, par exemple.
Alors moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors en fait il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Morsa qui a publié un petit article là-dessus justement sur la qualité des événements Apple, et je vous trouverai le lien. Et comme on dit, la production value en anglais, elle est juste colossale. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune entreprise qui met une telle qualité de vidéo, de production. À chaque minute, en fait, ça se voit d'ailleurs, enfin, la façon dont c'est filmé, c'est extraordinaire. Enfin, moi, je trouvais que c'était bien rythmé, ça allait vite, ça allait, il n'y avait pas d'informations en trop, ni ça manquait, il y avait beaucoup de nouveautés annoncées, enfin, et franchement, enfin, c'était super maîtrisé, quoi. Moi, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Puis, il y avait beaucoup de petites pointes d'humour à droite, à gauche, il y avait des petits clips qui cassaient un peu le rythme, mais qui étaient très bien faits. Enfin, vraiment, moi, je trouvais que c'était un super événement au niveau de la forme, j'ai vraiment aimé. Et par rapport à ce qu'on a déjà dit, il y a des conférences, des fois, qui durent 2, 3 heures, qui sont juste pénibles à force parce que, ben, ils se redisent beaucoup. Enfin, voilà, c'est pas forcément agréable. Là, ça allait là aussi, là où il fallait que ça aille et pas plus, et c'était très bien. Moi, j'ai vraiment aimé.
Ton avis, Audrey?
Pareil, je m'habitue à ce format et je crois que j'aurais dû. Enfin, maintenant qu'on en a eu 3-4 comme ça, je me dis qu'est-ce que ça donnerait si on revient. Je pense qu'après, ils vont faire un mix des deux. Je pense qu'il y aura
Oui.
quand même une partie préparée et peut-être une partie live avec un public, peut-être pour les plus grosses, enfin, les plus grosses nouveautés, mais clairement, le fait que, déjà, en effet, que ça dure qu'une heure, c'est vraiment super comme format, on a le temps de, ça enchaîne vite, mais, enfin, moi, personnellement, j'ai le temps de noter, les nouveautés, les petits détails que j'ai vus, et du coup, ça dure qu'une heure, donc, on peut passer à autre chose après. C'est cool.
Je suis totalement de votre avis et je ne m'ennuie pas vous savez, ces passages qu'on a dans les keynotes, dans le temps, les vieilles keynotes qu'on va dire, où il y avait les partenaires qui arrivaient sur le
Ah
stage, c'était les moments pénibles, là, ben, on est gâtés,
là.
on a, ouais, c'est ça. On est gâtés, on n'a plus besoin de se taper ça. Alors, keynote, c'est une présentation, pour ceux qui ne connaîtraient pas ça, c'est une présentation que fait Apple, il y en a plusieurs dans l'année. Chaque keynote a souvent une thématique. Au printemps, c'est plus les iPads, les iPads et les Mac. Après ça, au milieu, au début de l'été, c'est plus les développeurs. Et puis vers l'automne, ben, on s'en va plus vers tout ce qui est iPhone. Et puis là, ben, évidemment, Apple diversifie ses produits. Et Apple diversifie aussi ses services. Alors, dès le départ, on a entendu parler de deux services, c'est-à-dire un qui nous intéresse un petit peu moins, qui est la carte de crédit qui va être partageable maintenant dans la famille. En fait, la cote de crédit, la possibilité d'aller chercher du crédit avec cette carte de crédit-là va être répartie sur toute la famille. Alors ça, c'est assez américain, américano-centriste dans la mesure où on a un ratio d'endettement très, très élevé et les cartes de crédit font foison en Amérique du Nord. Alors, ben, on aime ça, ces nouvelles-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'endetter sur le dos de son conjoint.
Bah, ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il expliquait, Tim Cook expliquait que dans un couple, chacun peut avoir un crédit à un taux différent et que c'était pas juste. Et du coup, si avec l'Apple Card, c'est ça, je crois,
C'est ça.
ils vont pouvoir regrouper leur crédit avec un taux enfin, il a dit que ça serait plus juste. Voilà. Donc, quand Apple, dès le départ, se met à parler de taux de crédit, tu te dis, il y a quand même du changement dans l'air. Cette société prend de plus en plus de place, j'ai l'impression.
Ouais, effectivement. Deuxième annonce qui a été très très vite. On va en discuter un petit peu plus longuement ici entre nous parce que présentement vous écoutez un podcast et la deuxième annonce, ben prenez en compte les podcasts. Une grosse nouveauté au niveau de d'Apple. Bon, pour la petite histoire, c'est quand même beaucoup Apple qui a démarrer les podcasts dans l'histoire. Si vous remontez dans l'histoire, il y en a eu d'autres, là, on se comprend, mais c'est vraiment Apple qui a fait la promotion de ce médium-là.
Et, bah, le podcast, juste petit aparté, quand même, le podcast, le pod, ça vient directement de l'iPod. Hein. Faut pas se leurrer.
Et c'était il y a 15 ans. Ouais.
Et c'était il y a 15 ans.
Et ben là, grosse nouveauté, vous avez entendu parler certainement que Spotify fait maintenant du contenu directement dans sa plateforme, du contenu de podcast. Ici, plus au Québec, on a Cube Radio, qui est une application de podcast, et Radio-Canada Audio. Vous avez certainement entendu parler d'autres plateformes en France aussi, que je ne saurais pas... il commence à avoir une espèce de plateformisation des podcasts, et Apple ben n'est pas en reste. Va aussi offrir des contenus un peu plus exclusifs sur son application de podcast. Fait que moi, je en tant que créateur de podcast, j'y vois certains dangers, mais j'y vois aussi certains avantages. Puis je les ai énumérés. Vous allez voir, ça va passer vite. Pour ceux qui n'aiment pas les podcasts, dans 2 minutes, on a fini. Mais je tenais quand même à en parler. Alors, une chose qui est nouvelle chez Apple, c'est qu'ils vont proposer l'hébergement des podcasts. Ce que vous ne savez pas, c'est que présentement, quand vous téléchargez notre podcast, il est hébergé ailleurs. C'est pas parce qu'il est dans l'application que le fichier audio que vous écoutez est sur les serveurs d'Apple. Non, les serveurs d'Apple ne font que rediriger l'URL du podcast et en arrière, votre application la télécharge. C'est magique, vous n'y voyez absolument rien que du feu. Mais en bout de ligne, ça a quand même une incidence pour les créateurs qui doivent se trouver des hébergements de fichiers audio. Alors là, on va pouvoir auto-héberger nos fichiers audio directement sur la plateforme d'Apple. Évidemment... il y a certaines conditions qui vont apparaître parce que il va y avoir du contenu exclusif, il va y avoir des abonnements qui vont pouvoir venir. Apple l'a dit, on va pouvoir s'abonner directement facilement à des podcasts ou à du contenu exclusif d'un podcast, que ça soit audio ou vidéo d'ailleurs. Évidemment, ils vont prendre, pour les créateurs, ils vont prendre leur la dîme, c'est-à-dire le 30% traditionnel d'Apple sur tous les créateurs de podcasts. Mais par contre, la deuxième année, il semblerait que ça tombe à 15%.
Dans le cas d'un podcast qui serait sur abonnement payant.
C'est ça, exactement.
Ce qu'ils vont mettre en place. Il y aura toujours des podcasts gratuits, mais un créateur de podcast pourra définir un prix d'abonnement et là, Apple prendra ses 30% comme d'habitude.
Absolument. L'autre avantage que du côté client, je me transpose du côté de vous, chers auditeurs, c'est que vous allez pouvoir supporter beaucoup plus facilement les créateurs de podcasts. On sait maintenant, là, ça peut être compliqué. Des fois, il y a de la pub dans le podcast. On n'arrive pas à discerner si c'est du contenu éditorial versus de la publicité. Il y a aussi des fois des podcasteurs comme je le fais dans ReLife qui vous demandent de vous abonner à un Patreon, de vous abonner à un Tipeee. Alors, ça prend des démarches. Là, évidemment, c'est Apple. C'est bien intégré. Il y a un bouton qui va apparaître pour s'abonner, il va aussi avoir le bouton pour se désabonner, il va y avoir des périodes d'essai, il va y avoir aussi des périodes de remboursement. Tout ce que vous connaissez dans l'écosystème d'Apple va être disponible pour les créateurs, pour les consommateurs de podcasts. Vous allez avoir aussi la possibilité d'avoir des émissions plus privilégiées pour certains. Alors, pour ceux qui vont laisser leur podcast public, vous allez pouvoir donner du contenu à vos abonnés supplémentaires dans le même abonnement. L'application change un petit peu. Bref, moi, je n'y vois que du bon. Audrey, Guillaume, qu'avez-vous pensé de cette information-là? Est-ce qu'on passe à travers cette nouvelle-là ou vous avez des points à rajouter?
Vas-y, Guillaume.
C'est un domaine compliqué en fait. Le truc c'est que c'est intéressant qu'Apple évidemment aille sur ce marché, mais bon, c'est vrai que c'est quand même plutôt parce qu'il y a une pression de la concurrence, en particulier Spotify, qui et en fait moi je suis moyen content de ce genre d'annonce parce qu'en fait ça veut dire qu'il va y avoir en fait des paywalls quoi. En fait donc il y aura des abonnements obligatoires pour accéder aux contenus et on voit déjà en plus qu'il y a des contenus qui étaient auparavant assez facilement accessibles, par exemple ceux de Radio France, qui vont aller migrer maintenant sur les applis application et il va falloir avoir plusieurs applications pour aller accélérer un contenu ou un autre. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, on avait Netflix qui regroupait des contenus, puis d'un seul coup, bah voilà, Disney dit non, on va sortir nos contenus, on va les mettre sur notre plateforme. Donc en fait, du coup, on vient à tout un tas de plateformes. Alors après, je pense qu'à un moment, bah, peut-être que ça va aller dans l'autre sens. C'est souvent ce qui se passe, c'est que ça va dans un sens, ça on centralise et puis à un moment on décentralise. C'est comme pour les opérateurs internet. À une époque, il y avait plein d'opérateurs internet, et puis maintenant il y en a plus que 3 ou 4. Enfin, c'est, je sais pas vers où ça va en fait. Je suis pas ultra fan de l'idée. Après, si ça permet à certains de dire bon bah ok, on peut faire du contenu, on peut avoir des revenus réguliers à l'aide du podcast. Et si on professionnalise ce contenu, pourquoi pas? Bon, alors moi, je vous rassure, hein, troisième podcast, ce sera gratuit, hein, parce qu'on n'est pas... voilà, 2 épisodes par an, ce serait un peu abusé peut-être de les faire plus. Soyons honnêtes. Aussi qualitatif soit-il. Bon, après, on fait des épisodes de 3 heures, donc forcément, c'est
autre chose. Faudrait découper.
Audrey, toi qui est créatrice sur la plateforme YouTube, de voir la possibilité de faire des créations directement sur Apple avec des facilités pour les gens qui vont écouter telles que des transcriptions, la facilité de payer. Est-ce que ça t'attirerait de mettre, exemple, tes capsules plus privilégiées sur cette plateforme-là?
Ben écoute, faudrait y réfléchir. Après, pour moi, le podcast, ça reste vraiment le petit truc magique qui pour moi doit être gratuit, clairement. Enfin, un podcast dans mon esprit, c'est quelque chose de gratuit, même si ça demande du travail, hein, comme on le fait nous tous les mois. C'est pas, j'aime pas trop la publicité dans les podcasts quand j'en écoute et que la personne est coupée en plein milieu d'une phrase avec une pub. Je trouve ça vraiment, enfin, ça respecte pas du tout la création de la personne.
Ouais, c'est pénible.
Autant, c'est vrai que YouTube, tu peux, en tant que créateur de contenu, avec moi, je crée du contenu avec de la publicité, je suis hyper précise où je place mes publicités dans les vidéos qui sont longues, j'en fais pas beaucoup. Mais c'est vrai que sinon, si on laisse par défaut la machine mettre la pub, c'est une cata au niveau... Enfin, ça respecte pas pour moi la personne qui écoute ou qui regarde le contenu. Donc, faudrait voir. Après, je préfère une forme d'abonnement, même si ça peut être 1 euro par mois pour un podcast. Voilà, en fait, on sait avec Magellan et tout, on sait très bien qu'il y a de l'argent à se faire avec les podcasts. Il y a beaucoup de podcasts.
Alors, Magellan, je suis pas sûr qu'ils s'en fassent beaucoup, justement. C'était pas le bon exemple.
Non, mais disons qu'ils ont flairé quelque chose et après, que ça marche ou pas.
Magellan, alors, attention, Magellan, ils ont quand même décidé de se dire, bah tiens, on va faire du pognon sur le dos des autres, en fait, en privatisant des flux RSS. Hein. Au départ, c'était le principe. Alors, bah, ils ont quand même changé leur fusil d'épaule après, mais c'était pas non plus un truc super, super clean ce qu'ils faisaient à la base.
Ouais, non, mais je citais une plateforme. Qui voulait oui. Voilà, payante, mais en plus c'était du contenu qu'on offrait gratuitement, donc il y avait vraiment un problème à ce niveau-là.
Un problème,
voilà. Ouais, non, mais c'est clair, on en a assez parlé quand c'est arrivé.
Après, je pense qu'Apple, ils veulent se placer en tant que Netflix en fait du podcast, quoi. Comme l'a fait aujourd'hui Spotify, et puis voilà, c'est.
Après, ce qui reste important, c'est qu'on peut toujours, on pourra toujours faire du podcast gratuit, et je pense qu'on pourra choisir ou non s'il y a de la publicité dedans. Et après, en effet, de toute façon, les podcasts se sont professionnalisés, entre guillemets, même si moi, j'écoute des podcasts depuis toujours et j'ai toujours trouvé les gens passionnés très professionnels, en fait. Enfin, il y a un aspect quand même de passionné dans le monde du podcast qu'il faudrait pas perdre pour se faire de l'argent, quoi.
Non, absolument. On va pas s'éterniser parce qu'on a, vous l'avez compris, hein, on aime ça le monde du podcast, on aime ça le monde de la création. Mais c'est sûr que dans les prochains mois, il y a des choses qui vont apparaître, il y a des choses qui vont changer probablement dans l'écosystème de podcast, l'application que vous utilisez pour écouter les podcasts. Ça va être intéressant à suivre. Une petite affaire intéressante, par exemple, c'est que maintenant, moi, j'ai été dans la plateforme des créateurs hier soir qui a changé. Et maintenant, on peut spécifier si on a de la publicité intégrée dans nos podcasts. Je trouve que c'est un beau niveau de transparence qui commence à être mis dans les podcasts. Ça serait bien que tout le monde joue le game, comme on dit. parlons tout de suite de la star de la keynote. Hein, c'était évident. C'était de ça que tout le monde attendait. Toutes les rumeurs pointaient sur ça. Le iPhone mauve.
Évidemment, on l'attendait tous.
Bah, évidemment, c'était, y avait que ça. Là, on savait que ça allait arriver, et on était impatients et voilà. En fait, ouais. En fait, non, il y a une personne qui était impatiente, c'était Anthony Delzin, Voilà, mais à part ça, voilà.
C'est vrai qu'il a fait des bons, apparemment.
Ah bah, je pense qu'il, comme je disais, il devait être en PLS ce soir-là, mais bon, voilà.
Bon, alors c'est ça, Apple nous a présenté un iPhone mauve. Moi, j'étais très surpris de voir ça, dans la mesure où, ouais, c'est juste une couleur, là, je sais pas pourquoi.
Ouais, on s'en fiche, en fait.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on on va faire comme on aurait dû faire, c'est-à-dire passer très vite à la prochaine nouvelle, qui était quand même une vedette très attendue depuis plusieurs
Cette
années.
Cette fois-ci, ouais.
Depuis plusieurs années, effectivement, ce sont les AirTags. Audrey, est-ce que tu les as achetés? C'était aujourd'hui qu'on pouvait commencer à les acheter?
Eh ben non, tu vois, j'ai résisté. J'ai résisté parce que je n'ai pas encore trouvé une utilité pour moi, dans le sens où je suis en télétravail, là on sort vraiment pas beaucoup, je ne perds jamais mes clés. Je ne perds pas grand-chose, sauf ma carte bancaire, mais malheureusement, c'est pas très pratique de coller un AirTag sur une carte bancaire, mais j'utilise plus en plus avec Apple Pay, donc bref, je réfléchis toujours à acheter un AirTag, j'en sais rien, en fait, je trouve ça génial, mais j'en vois pas encore l'utilité, donc j'attends.
Qu'est-ce que le AirTag, Guillaume? Dis-nous, raconte-nous.
Ah, c'est la plus grande invention depuis le vélo, le poisson, la bicyclette, comme disaient tes proches. Le AirTag, en fait, c'est quoi? Bah, en fait, c'est une petite, comment on peut appeler ça, en fait?
C'est un accessoire?
Un petit accessoire, voilà, que tu peux mettre, attaché, en fait, à un objet ou que tu peux cacher, en fait, par exemple, dans ton sac ou attaché à tes clés, si tu achètes le petit support qui va bien pour ça, et qui te permet, en fait, de facilement retrouver les objets que tu aurais perdus malencontreusement.
Ouais.
Donc, tu peux coller ça, voilà, sur tes clés, sur un sac à dos, sur ton chat, sur ce que tu veux. En fait, non, même pas, d'ailleurs, ça marche pas sur le chat, c'est pas prévu pour les animaux.
Malheureusement.
Et voilà. Et oui, forcément. Donc, ça utilise du Bluetooth, et surtout, l'intérêt, c'est qu'en fait, eh ben, non seulement tu peux retrouver facilement les objets qui sont à proximité de ton iPhone, par exemple, donc tu as perdu tes clés dans ta maison, tu peux les retrouver si ton iPhone est dans le coin, mais surtout, tu peux t'appuyer sur 1 milliard d'appareils connectés, puisqu'en fait, tu peux t'appuyer, enfin, le AirTag, en fait, a été conçu pour que, bah, si tu as perdu ton objet et qu'un autre appareil, un iPhone dans un coin, passe à côté, et que tu as déclaré l'AirTag comme perdu, bah, automatiquement, il va pouvoir dire, ah, bah, attends, cet iPhone qui est dans le coin, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. En plus, Apple fait quand même un petit peu attention au respect de la vie privée. C'est un des gros points importants de la conférence. Bah, il va pouvoir te dire, je suis là et tu peux venir me chercher à l'endroit, en te trouvant de façon très 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 en se localisant en fait de façon très précise. Donc c'est un objet, en fait un accessoire qu'on attendait depuis longtemps. Il y a des concurrents sur le marché, en particulier Tile, hein, par exemple, Wistiki, ou je sais comment ça s'appelle, des choses comme ça. Et là, Apple, ben, en fait, ils s'appuient sur leur incroyable réseau d'appareils connectés pour proposer un outil qui est quand même super intéressant quand on perd ses objets, ça arrive à tout le monde.
Alors, il y a un autre élément qui est super intéressant, c'est qu'en plus d'essayer de le déclarer volé, de le retrouver sur une carte, avec les nouveaux iPhones, vous pouvez avoir un niveau de précision assez hallucinant si vous perdez votre objet dans la maison. Ben, l'iPhone va vous dire, ben, il est à droite, il est à gauche, puis vous allez pouvoir vous diriger, tel un zombie, qui n'est plus capable de se déplacer sans son téléphone. vous allez pouvoir aussi, si vous trouvez un Tile, par terre, avec un téléphone et même Android, à ce qu'il paraît, alors là, il faudra l'essayer, posez votre téléphone et là, il y a un tag NFC intégré dans cette petite pupuce qui va vous dire, ben le Tile appartient à telle personne, communique avec elle.
Le AirTag, oui.
Le AirTag va communiquer par NFC à l'autre téléphone pour dire, faut bien l'expliquer. Le AirTag envoie un signal au téléphone et vous pouvez décider d'appeler la personne pour retrouver, pour lui redonner son objet. Alors, moi, on n'était pas bluffé, hein. C'était quelque chose qu'on attendait depuis plusieurs années. On peut personnaliser ces AirTags avec des emojis, avec quelques lettres. Ça peut être super intéressant. Moi, j'en ai acheté 4. J'ai acheté le pack, de 4 à 119 €. Vous pouvez les avoir à partir de 35 €. $39 canadiens, $129 canadiens, et vous pouvez les personnaliser. Alors, vous pouvez mettre les initiales ou un petit emoji. Moi, j'en ai pris 4 avec l'emoji chien, l'emoji chat, l'emoji ours et l'emoji licorne. Alors, je suis heureux et je suis impatient de les recevoir.
Et à quoi ils vont te servir, alors?
Alors, c'est en priorité les clés. Alors, on sait maintenant, les clés, c'est un objet qui coûte assez cher. Les clés comportent bien souvent des systèmes électroniques pour démarrer l'auto, des systèmes électroniques pour déverrouiller les portes. Et les clés sont maintenant coûte plusieurs centaines d'euros ou de dollars. Alors, de les perdre, non seulement c'est triste parce que vous pouvez pas prendre votre véhicule, mais c'est aussi une certaine somme que vous pouvez retrouver. Alors ça, c'est un avantage. Ça peut être aussi des valises, ça peut être aussi des bagages quand vous partez en voyage. Hein, vous savez, hein, ces grandes compagnies d'aviation qui, des fois, perdent nos valises. Ben peut-être que ça va être plus simple pour les retrouver et de dire... Non, elle est rendue à Rio de Janeiro, ma valise, et elle devait être à Paris. alors, il y a toutes sortes d'avantages. Moi, ça va vraiment être pour les clés et puis pour mes AirPods que je perds tout le temps dans la maison. Alors, je vais m'en servir pour ça.
Mais tes AirPods, ils sont pas, ils peuvent être localisés.
Ouais, mais c'est...
C'est juste
c'est la, pas petite, assez précis.
La petite sonnerie des écouteurs qui fonctionne. Et si elle est vraiment... Si tes écouteurs sont dans le véhicule, dehors, tu les entendras pas.
Ah, c'est pas très, très fort.
Non, effectivement. Fait que, le petit AirTag vient, évidemment, vous connaissez Apple, avec des accessoires que vous pouvez ajouter pour les accrocher. Alors, les accessoires varient. Les prix sont de 15 euros et montent jusqu'à plusieurs centaines d'euros avec des choses Hermès en cuir. Mais, évidemment, sur eBay ou sur Amazon, vous allez trouver des packs beaucoup, beaucoup moins chers. Belkin, je pense, vient d'en sortir quelques-uns. Moi, l'affaire qui me fait vraiment vraiment plaisir, c'est deux choses. J'étais un abonné de Tile. Fallait que je paye un abonnement pour avoir mes Tile, qui l'équivalent, qui ont même été précurseurs dans ce domaine-là, je dirais. Et les premiers Tile aussi, en plus, ben fallait après un an les renvoyer à la compagnie pour en racheter d'autres parce qu'on ne pouvait pas remplacer la pile. Eh bien, dans les AirTags, oui, mesdames et messieurs, vous pourrez remplacer la pile.
Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait, ils avaient une autre version. En fait, il y avait deux versions.
Les premiers,
les premiers, effectivement, tu étais obligé de relancer. Alors, on dit souvent, l'Apple et l'écologie, machin, les piles des AirPods, etc. Pour le coup, Tile, c'était pareil. Tu pouvais pas changer la pile. Après, il y a les versions pro, et les versions pro, en fait, qui aujourd'hui coûtent un peu plus cher presque que les AirTags. Le seul problème des AirTags, c'est qu'après, il faut rajouter des petits accessoires pour les attacher. C'est-à-dire que le Tile Pro, tu peux mettre à ton porte-clés directement. T'as une petite boucle qui est prévue pour. L'AirTag, il faut que tu rajoutes encore un accessoire à 5-10 euros pour que ce soit fonctionnel, quoi. Ouais. Et après, tu peux aussi glisser dans un sac à dos.
Oui,
et
c'est ça.
C'est bon, voilà.
On peut le mettre dans un petit zip, dans une petite pochette. Ouais.
C'est bien aussi.
Alors, pour vous donner un peu le format, la grosseur, ça ressemble à un gros Mentos. Vous savez, les bonbons Mentos, là, ça ressemble un peu à ça. Et évidemment, tout seul, ben on peut le perdre. C'est pour ça qu'il y a une espèce de petite housse que vous pouvez acheter ou carrément placer ça dans une poche, comme disait Audrey.
Je voulais juste ajouter au-delà du fait que pour moi, l'AirTag, en fait, ce que je trouve hyper intéressant, c'est surtout le réseau de ces milliards d'iPhone et d'iPad et de Mac qui pourront localiser un objet perdu. Je trouve ça assez incroyable, en fait, quand on y pense, ça fait comme une toile gigantesque où tous les iPhones seraient connectés. Bien sûr, c'est anonyme, hein. Il y a vraiment un énorme respect de la vie privée sur ce produit-là. Comme d'habitude chez Apple, vous allez me dire, mais là, ils ont vraiment insisté là-dessus. Et si, par exemple, quelqu'un veut vous suivre à la trace et mettre un AirTag dans votre poche ou dans votre sac, votre iPhone détectera qu'il y a un AirTag à côté de vous, ou du moins sur vous, et émettra une sonnerie au bout de... On ne sait pas encore, mais je crois que c'est 3 jours. Le AirTag qui ne vous appartient pas, donc, va sonner pour vous prévenir, en fait, que vous êtes... qu'il y a quelque chose... Enfin, un AirTag qui est là, alors qu'il ne devrait pas l'être, et qui ne vous appartient pas. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Il y a eu pas mal de sujets sur... j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, et dans les commentaires, c'était vraiment... oui, mais c'est pas un antivol, donc oui, c'est pas un antivol.
Non, c'est pas un antivol, ouais. Clairement, c'est pas un antivol. C'est pas conçu pour ça.
Mais par contre, je me dis, si j'en mets un sur mon vélo et qu'on vole mon vélo, j'aurai quand même 3 jours avant que l'AirTag se mette à sonner une fois qu'il est disparu pour le localiser quand même s'il y a des iPhones, des iPads pas loin.
De toute façon, s'il est volé, tu peux aussi le déclarer comme perdu, tu auras la localisation beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça aussi.
Oui, donc pour moi, ça reste quand même un moyen rapide de retrouver un objet qu'on nous a, enfin quelque chose qu'on nous a volé, même si c'est pas son but premier. Il y a quand même quelque chose à ce niveau-là.
Ouais, à noter que le réseau Find My Network, ce que j'ai compris, puis là vous allez pouvoir me le confirmer, et qu'il était maintenant désormais ouvert aux autres manufacturiers, c'est-à-dire que il y aura pas juste des tiles, vous pourrez avoir, exemple, une compagnie fait justement un vélo, c'était l'exemple d'ailleurs de Léo Duff quand j'ai participé au Tech Café. Si une compagnie fait un vélo, et apparemment il y en a, compatible avec l'écosystème Find My Network, vous allez pouvoir l'avoir directement sur votre carte. Alors bref, en même temps de sortir leur taille, leur AirTag, je veux dire, et ils ouvrent un système, un écosystème à d'autres, ce qui est des fois peut-être très, très laborieux à mettre en place. Ils ouvrent un petit peu la concurrence en la refermant en refermant la porte sur les doigts de la compagnie Tile, par exemple.
C'est sûr. De toute façon, ils ont déjà un procès, d'ailleurs, de Tile et de les autres concurrents de Tile sont déjà en train de dire aussi, ouais, mais Apple, ils font un truc que nous, on peut pas faire parce qu'ils ont accès à des fonctions spécifiques de l'iPhone et donc, il va y avoir procès et débat là-dessus. Et alors, ce qui est assez intéressant, en plus, c'est qu'Apple a annoncé, en fait, l'ouverture de la fonction localisée à d'autres constructeurs, une semaine, en fait, avant l'annonce du AirTag, en fait. C'est assez étonnant. Enfin, même deux semaines après. C'était il y a deux semaines. Et ils ont finalement lancé leurs AirTags. D'ailleurs, il y a un petit clip très rigolo, en fait, où ils montraient un homme qui perdait ses clés, en fait, dans son canapé. Il partait dans le canapé. Je trouve ça génial.
Ah oui, il faut la voir, cette vidéo.
Elle est extraordinaire. Elle est géniale. Il retrouve son chat dans le canapé.
Et ouais. Je sais pas si t'avais vu, il croise aussi des CD. Il y a un peu on replonge un peu dans le passé avec.
Un iPod, ouais.
Et je crois qu'il y a un iPod, et puis un vieux téléphone cassé qui n'est pas un iPhone. Il y a des petits trucs comme ça.
C'est ça.
Donc le AirTag, il est dispo maintenant, là. On enregistre le 23.
C'est dispo.
Je l'ai acheté. Alors, probablement qu'au prochain épisode, je pourrais vous donner un retour par rapport à ça. Évidemment, on s'attend à ce que la configuration soit très simple. C'est Apple. Ça soit joli comme tout quand on va recevoir ça dans la boîte. Il va sûrement y avoir beaucoup de unboxing sur YouTube qui vont arriver.
Est-ce que t'en as commandé, Guillaume?
Alors, depuis cet après-midi, j'essaye. En fait, à chaque fois, il y a quelque chose qui m'interrompt, des gens, des clients, d'un podcast. Donc je n'ai pas eu le temps encore de commander, mais c'est prévu, j'ai prévu d'en commander pour moi, pour mes employés, pour la famille aussi, donc voilà.
C'est vrai, c'est des beaux cadeaux qu'on peut faire aux employés, effectivement, c'est un bon point. Deuxième produit, nouveauté, on s'y attendait un petit peu, mais peut-être pas à ce point-là dans la télécommande, on va dire. Vous l'aurez compris, on va parler d'Apple TV 4K. Audrey, je te laisse présenter pour que ce soit tout le temps moi qui parle.
Eh ben écoute, là une nouvelle Apple TV. Donc l'Apple TV, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un petit boîtier que vous pouvez raccorder en HDMI à votre télévision. En gros, c'est un boîtier multimédia qui va vous permettre d'accéder à plein de services vidéo, notamment Netflix, Disney+, Apple TV+, bien sûr, et puis votre contenu aussi, vos photos, des podcasts, enfin tout l'univers Apple en fait, et autres, puisque vous avez un App Store avec des centaines d'applications, je ne sais pas s'il y en a des milliers, mais il y en a quand même pas mal, donc vous pouvez installer l'application Disney+, sur votre Apple TV, et puis du coup accéder au catalogue. Donc c'est un super boîtier que moi j'utilise depuis que ça existe, je crois j'en ai eu 3, là je suis à ma 3e, donc j'étais contente de voir que ce produit continue d'être mis à jour et d'évoluer. Pour moi, ça a toujours été un super produit. C'est vrai qu'il y a des télés connectées aujourd'hui, mais comme moi, j'ai une Sony qui est assez vieille maintenant. Je trouve que, enfin, le boîtier Apple TV chez moi, on consomme que ça quasiment. Donc, je trouve ça vraiment, c'est vraiment un bon produit. Donc, la nouvelle version, elle a une puce A12 bionique. Donc, on va gagner bien sûr en vitesse, en calcul, enfin comme d'habitude, il y a toujours des améliorations dès qu'on change la puce. Il y a une prise en charge du HDR à haute fréquence d'image, donc ça, si votre télévision bien sûr est HDR, vous aurez la prise en charge du HDR sur l'Apple TV. Et notamment, il y a aussi le AirPlay qui évolue, puisque vous pouvez depuis votre iPhone, votre iPad ou votre Mac envoyer l'image de votre appareil sur votre télévision grâce à AirPlay. Et il y a une prise en charge des films, on en avait parlé le mois dernier, des films filmés en HDR à je ne sais plus combien d'images par seconde. Enfin bref, ça c'est pris en charge maintenant, donc vous pourrez diffuser vos films sur le boîtier Apple TV, il y a une prise en charge du HDR. Donc ça c'est vraiment pour les gens qui sont à la pointe au niveau télévision, qui ont vraiment une télévision hyper récente, quoi. Mais bon, ça servira de toute façon dans les années à venir, le boîtier... Apple TV, il vieillira bien du coup, puisqu'il est déjà, pas en avance, mais il est déjà bien positionné. Alors, un truc que j'ai trouvé super intéressant, c'est le calibrage de votre télévision grâce à l'iPhone et à l'Apple TV.
Alors ça, bah en fait, on rentre totalement dans cette idée d'osmose en fait et de technologie qui fonctionne les unes avec les autres, quoi. Vous avez un iPhone, donc ça vous permet de faire quoi? Bah ça vous permet de calibrer l'image de votre appareil, de votre télévision, pour améliorer le rendu. Alors comment ils font ça? Bah en fait, ils affichent une image, enfin des séries d'images sur l'écran. Vous mettez votre iPhone, non, sinon Siri ne t'active pas. Elle est terrible celle-là. On lui a rien demandé, elle se ramène. Et donc il y a des formes de couleurs qui vont s'afficher sur l'écran. Vous allez placer votre iPhone juste devant et en fait en fonction de la luminosité qui est déclenchée, bah, l'Apple TV va ajuster sa colorimétrie pour que ça corresponde en fait, pour que ça améliore la qualité de l'image. Alors ça ne marchera d'ailleurs que pour pour les contenus qui sont diffusés sur l'Apple TV. Pas pour les autres contenus qui pourraient être diffusés sur la télévision, évidemment, puisque là, bah, il faudrait calibrer la télévision complètement. Mais c'est toujours voilà, cette idée que Apple propose un produit, puis il dit, tiens, si vous avez deux produits, bah, vous avez des trucs en plus qui se débloquent, quoi. Et ça, je trouve ça assez classe. Et en plus, cette fonctionnalité, en fait, elle est liée à la ver nouvelle version de l'Apple TV OS, qui arrive, enfin donc de tvOS, qui arrive la semaine prochaine, en fait, et qui va permettre en fait à tous les Apple TV, quasiment sortis depuis quelques temps, de bénéficier de cette fonction.
Ah, c'est
Ça,
cool. Je
c'est
croyais que
plutôt
c'était
cool.
que pour la nouvelle.
Non, 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 non,
Ah,
non.
trop bien.
Rétro-compatible. Au même titre que la télécommande,
Rétro-compatible.
d'ailleurs. La télécommande va
Ouais.
pouvoir fonctionner. La nouvelle télécommande, vous pouvez l'acheter
Et oui.
à part et la faire fonctionner sur des plus vieux Apple TV, on va dire ça comme ça.
Et oui, parce qu'ils ont
Bah
enfin une
c'est...
nouvelle télécommande.
Ouais, c'est ça, j'allais dire. C'est une bonne nouvelle parce que j'ai l'Apple TV HD, donc juste celle d'avant. J'avais pas pris en 4K, j'avais pris juste en HD. Et la télécommande, clairement, enfin, c'est pas la meilleure qu'ils aient fait. Donc là,
Clairement pas.
moi, je suis contente qu'ils aient fait une nouvelle télécommande. Alors, elle a un peu le form factor des iPhones. Hein, ça y est, tous leurs produits ont des angles bien carrés, enfin, des tranches bien carrées, on va dire, et puis quand même des angles arrondis en haut. Mais elle a une forme, enfin, j'ai l'impression qu'elle est plus épaisse et plus grande que celle d'avant. Ce que j'ai trouvé bien sur cette télécommande, c'est qu'on a une molette. Comme sur les iPods, les tout premiers iPods où on tournait pour changer de piste, ben là on va tourner pour avancer dans le film ou revenir en arrière. Vraiment l'anneau là il tourne. Et puis ce que je trouve super, c'est qu'il y a un bouton pour couper le son. Alors ça c'est tout con, mais moi ça me manque à chaque fois je dois vraiment appuyer sur le bouton moins pour baisser le volume et un bouton pour couper le son, ben ça manquait. Et puis il y a un bouton maintenant pour éteindre l'Apple TV et la télé en même temps. En haut à droite, là, il y a un petit bouton pour tout éteindre. Donc ça, je trouve ça bien aussi. Comme sur les iPhones, on a Siri sur la tranche à droite de la télécommande. On a un petit bouton pour invoquer Siri.
Celle dont on ne doit pas nommer le nom.
C'est
Celle dont on ne
ça.
doit pas dire le
Mais moi, je
nom
fais
dans les
exprès.
podcasts. Pour énerver les gens, c'est moche.
Et donc, cette télécommande, comme l'a dit Matt, elle est compatible avec les anciennes Apple TV. Je ne sais pas quel modèle exactement, mais je pense qu'on peut revenir quand même
L'HD, ouais.
à la HD ou à la. Enfin, la HD et la 4K d'avant étaient sorties en même temps. Hein. C'était deux modèles. Il me semble.
Pas tout
Ouais,
à
je ne
fait,
sais pas
mais ça n'a pas
possible.
été très très loin, ouais, effectivement. La 4K n'est pas arrivée très très longtemps après la HD, ça, t'as bien raison. Moi qui suis fan des Apple TV depuis la deuxième, la petite. En fait, j'ai pas eu la grosse en plastique, vous vous rappelez, hein? Il y en avait une qui ressemblait un petit peu au Mac Mini à une époque. Et après, il y en a une toute toute petite, tellement mignonne, avec une télécommande qui était magnifique. Elle
Ah
n'avait
ouais, on a lu, ouais.
que trois boutons. Et ben, si vous avez connu cette télécommande-là, il y a quand même des airs de famille avec la nouvelle télécommande. Bon, personnellement, je déteste pas la télécommande actuelle. Bon, on va pas s'épivarder longtemps sur une télécommande, vous l'aurez compris. On est très, très enthousiaste par rapport à ça. Petit bémol, moi, je vous dirais, ben, tant qu'à sortir des AirTags, qui vous permettent dans la maison de trouver où est placé vos clés dans les coussins du fauteuil, pourquoi ne pas avoir mis ça, cette technologie-là dans la télécommande. Moi,
Mais
je suis très surpris.
c'est tellement évident. Enfin, c'est comme le truc, tu te dis, mais pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout du truc? Moi, j'ai écrasé une fois une télécommande Apple TV, une télécommande Apple TV comme ça, une Siri Remote. Je l'ai explosée en fait entre deux canapés. Elle est partie au fond du canapé. J'essaie de la récupérer. Ça a éclaté en fait, littéralement.
Ouais.
C'était au prix de la télécommande, ça fait mal. Et franchement, enfin, c'est le truc qu'on perd le plus facilement parce qu'en plus elle est très fine, donc en fait, elle va se mettre là où tu peux jamais aller. Et c'était super pénible. Et je ne comprends pas pourquoi effectivement ils n'ont pas mis la technologie à l'intérieur. Il y avait de quoi faire, quoi.
Peut-être que c'est une surprise et qu'elle est dedans.
Ouais, j'y crois pas trop, mais bon.
Alors, elle vient en 32 gigs, cette petite boîte-là, ou en 64 gigs, 199 € à 219 € respectivement. Puis en dollars canadiens, ben, on va y aller, 179 $ et 199. Non, ça, c'est des dollars US. Excusez, je suis complètement mêlé en ce moment.
T'inquiète pas, les gens iront voir sur le site d'Apple. C'est...
Voilà, voilà,
voilà. Voilà. Ils sont grands. Hein.
Bon, alors, on va arriver vers la partie du podcast où on va probablement avoir débat. Parce que, ben, je pense, Guillaume, tu vas nous le présenter la prochaine partie. Qu'est-ce que Apple a présenté qu'on s'y attendait peut-être pas?
Alors, ils ont annoncé un nouvel iMac. Alors, moi, pour être très clair, en fait, j'ai commencé à... Donc, ils ont commencé à annoncer qu'il y avait un nouveau Mac qui allait être présenté. Donc, moi, je me disais, allez, l'iMac, à la limite, c'était la machine qu'on attendait plutôt, qui devait être mise à jour, parce qu'elle n'avait pas été mise à jour depuis longtemps. Et quand j'ai vu qu'ils commençaient à montrer des machines en couleur, j'ai sauté de joie, littéralement, devant mon écran. Parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je trouve qu'Apple a des produits qui sont très beaux, mais sur lequel je trouve que le design est devenu vachement plan-plan, et le fait qu'ils remettent de la couleur un peu sur leur machine, en fait, que ça donne du peps, en fait, sur la machine, eh ben, je trouve ça super. Voilà. Donc là, c'est mon point de vue, clairement, et j'ai trouvé ça génial, et j'ai pas aujourd'hui besoin d'un iMac, clairement, j'ai assez de machines chez moi. Mais franchement, j'ai trouvé ça super top, qui redonne un peu, voilà, de gaieté au bureau, comme il avait fait avec l'iMac il y a 20 ans, quoi.
C'est
alors,
ça.
Alors l'iMac, c'est un ordinateur qu'on qualifie de tout en un. Ça a été dans les premiers à inventer ça, dans les faits Apple, avec le premier Macintosh, je dirais. Tout en un, tout intégré. Il arrive avec plusieurs couleurs. Audrey, tu nous l'avais prédit, mais pas à cette période-ci. Tu nous l'avais prédit plus tôt que ça, Audrey, l'iMac.
Ouais, j'ai cru que pour moi, ce serait le premier Mac avec la puce M1. Pour moi, ça aurait été vraiment l'iMac, si tu veux, pour moi, c'est vraiment le Mac symbolique d'Apple. Et je pensais qu'ils allaient lancer leur propre puce M1 avec ce modèle-là. Donc, ça n'a pas été le cas, mais en fait, je suis pas déçue, là, de voir ces modèles-là. Et quand on se souvient des pubs des iMac avec toutes les couleurs et tout, on a fait un bond en arrière, un bond nostalgique, mais super bon.
Vraiment,
quand, ouais. C'est... Franchement, moi, j'ai adoré aussi les voir tourner et tout, mais comme il y a... Ben, c'était il y a 15 ans, 20 ans.
Il y a 22 ans.
Il y a 22.
Les premiers iMac en couleur, c'était en janvier 99. Alors, voilà. L'iMac original, c'était 98.
Ouais,
et les
ça.
Premiers iMac version multicolore bonbon, c'était janvier 99.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On en a à dire plein de choses, mesdames et messieurs. D'abord, quand vous le regardez de profil, ça a une étrange ressemblance avec un iPad Pro, tellement c'est... pas épais, dans les faits. Moi, au début, je pensais que c'était un iPad Pro sur lequel on avait mis un pied, tellement je trouvais ça incroyable.
11 mm.
C'est fou.
C'est ultra
bel écran, magnifique dans... Alors, je vais m'avancer tout de suite. Magnifique dans l'arrière, ça, du derrière, le iMac est très beau parce qu'il y a la couleur bleue, jaune, orange, rouge, mauve, bleu et gris. Vraiment dans l'arrière, ils sont splendides. De profil aussi, c'est incroyable de voir l'ingénierie qu'il y a en arrière de ça. Mais c'est là où ça commence à se gâter pour moi, je trouve. Alors, il est pas très épais, 11,5 mm, et il est tellement peu épais que la prise jack, par exemple, la prise pour les écouteurs, est sur le côté. Ce qui est un élément assez disgracieux. Merci, si vous avez des haut-parleurs filaires, le haut-parleur fil va sortir du côté de l'écran gauche. C'est assez particulier. Par contre, là où je trouve ça plutôt joli, c'est... Le design, hein, c'est très angulaire, c'est très très beau pour ça. Et quand on arrive en avant, on regarde l'écran, le tour est blanc. Ouais, je peux accepter, mais ce menton, il a un menton de couleur, mais une couleur, une couleur palote. Autant en arrière, les couleurs sont ultra saturées, vibrantes, tout. Autant en avant, c'est palo. Alors, pour qu'on se comprenne bien, si vous avez pris un rouge,
c'est pastel,
exactement. Alors, moi personnellement, j'aime moins ça. Audrey, t'as publié sur Twitter ce matin et t'as publié l'affaire qui est la plus juste qui manque à ce iMac-là, c'est le logo en avant quand même, sur le menton.
Eh oui. Et oui, sur les iMac, depuis que les iMac sont plats, on a le logo d'Apple sous l'écran. Donc dans la barre qui fait à peu près 5 cm de haut, on a le logo d'Apple au milieu. Et là, il a disparu. Et moi, ça m'a tout de suite fait bizarre. Je me suis dit, mais on dirait un produit dégriffé, quoi, sans vouloir être... C'est pas une critique sévère, mais je me suis dit, mais où est le logo d'Apple? Et je l'aurais bien vu en blanc, donc en effet, j'ai fait un petit montage. Je me suis fait plaisir, j'ai fait un petit montage, avec la pomme, enfin le logo d'Apple sur le nouvel iMac. Et là, j'ai dit, voilà, c'est ça qui manquait. Bah, globalement, moi, je les trouve très beaux. Je trouve que ça fait. Ça les remet à la place, enfin, dans la famille, je trouve. Absolument. Pour moi, ça redevient un produit d'une gamme familiale, même si, bien sûr, on peut les faire évoluer pour avoir des configurations qui pourront correspondre aux besoins professionnels, on va dire. Mais en tout cas, je trouve que ça redevient un bel objet qu'on peut avoir chez soi. Il est vraiment très beau. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que au niveau du poids, ils sont super légers parce qu'ils font 5 kilos seulement. Mmh. Moi, je me souviens de mon premier iMac 27 pouces. C'était le modèle plat, mais avec lecteur CD. Donc, il était un peu épais. Et je crois qu'il faisait 13 ou 14 kilos. Enfin, c'était...
2 tonnes.
Ouais, non, c'était énorme. Donc là, 5 kilos pour un écran de 24 pouces et un ordinateur, du coup, intégré, c'est vraiment génial. Ils ont mis le paquet sur le système audio. Alors, ça sera bien sûr à tester, mais il y a 6 haut-parleurs, la prise en charge du Dolby Atmos, enfin, il y a plein de choses. Et d'ailleurs, on voit dans la keynote, on a vu des enfants allongés sur un lit comme ça, en train de regarder un film sur l'iMac. Donc, l'iMac devient un peu une télé de chambre, on va dire, parce qu'il y a ce système audio qui a l'air fabuleux. Donc, cette image-là, elle m'a intéressée. En effet, il y a la prise jack sur le côté. Personnellement, ça me choque pas plus que ça. Je suis contente qu'il y en ait encore une, disons, parce qu'au niveau port, c'est pas la panacée quand même sur le premier modèle, du moins.
Ouais, précision quand même juste par rapport à la prise jack. De toute façon, il n'y avait pas trop le choix. Ils pouvaient pas les mettre que sur le côté parce que la profondeur de la machine, elle est pas aussi profonde que le port jack lui-même.
C'est ça, c'est comme donc, le port Ethernet.
Ou alors il faisait un gros truc moche qui dépasse derrière, donc ça aurait pas été terrible. Donc là, ils avaient pas trop le choix en fait. Il fallait le mettre sur le côté.
Donc le port Ethernet, c'est pareil, en fait il n'est pas sur la machine, il est dans le bloc d'alimentation, et le bloc d'alimentation n'est pas non plus dans la machine, puisqu'en effet, vu son épaisseur, je pense que l'alimentation passait tout simplement pas, donc on a un petit bloc externe comme on a pour les MacBook ou les MacBook Pro, et sur ce bloc d'alimentation, on peut avoir en option pour 30€, je crois, une prise Ethernet, donc qui permettra de se connecter... Ouais. Ouais, voilà. Donc, en effet, sur la première configuration, faites attention parce qu'il n'y a quand même que deux ports Thunderbolt USB 4 au format USB-C. Donc, ça fait quand même que deux ports pour une machine de bureau, c'est peut-être un peu limite. Par contre, sur le second et le troisième modèle, vous avez quatre ports, donc deux Thunderbolt USB 4, toujours au format USB-C, et deux USB 3, toujours au format USB-C. Donc, moi, je vous conseille quand même de passer tout de suite à la seconde configuration, à moins que vous n'ayez jamais rien à... Enfin, très peu de choses à connecter à votre iMac.
Bah, comme souvent chez Apple, en fait, l'entrée de gamme, elle est là vraiment pour dire qu'il y a une entrée de gamme et pour baisser un peu le tarif, mais il y a quand même pas mal de sacrifices qui sont faits, qui font que tu fais « pas sûr quand même », quoi.
Ouais,
et
c'est
du
ça.
Coup, pour tenter le client, pour se dire « allez, avec un tout petit peu plus, je peux avoir une configuration quand même bien meilleure », moi, je conseillais surtout aussi de prendre les 16Go de RAM en standard et pas les 8Go, parce que 8Go... C'est sur le M1, alors les M1 s'en sortent plutôt très bien, quand tu n'as que des applications natives, ça peut aller, le problème c'est qu'il y a encore beaucoup d'applications qui sont des anciennes applications qui vont tourner avec la couche Rosetta 2, et elles mangent pas mal de RAM en fait, les applications sont beaucoup plus gourmandes, et quand le Mac M1 manque de RAM, et ben on le sent vraiment, et moi je conseille vraiment pas de le faire.
Alors,
donc, pensez aux 16Go, ouais. C'est bien.
Dans les deux configurations, ce qui distingue aussi, c'est le 7 cœurs de GPU pour la ouais. première petite configuration. Et aussi, dans la première petite configuration, vous n'aurez pas le jaune, l'orange, le mauve. Il y a des couleurs de moins. Alors, évidemment, on vous conseille tout de suite de passer sur le 8 cœurs, 8 GPU. Et évidemment, de mettre 16 gigs de RAM si vous voulez absolument y aller. Et de prendre celui qui est gris parce qu'il est le moins laid.
Non, moi je prendrais le jaune. Au niveau du stockage, par contre, même si on utilise beaucoup le cloud, etc., l'entrée de gamme et le milieu de gamme sont en 256 gigaoctets de stockage. Pour moi, pour un usage familial, ça reste un peu limite. Peut-être que je me trompe, mais chez la plupart de mes clients, il y a quand même des grosses photothèques photos. Alors même si, bien sûr, il y a l'optimisation avec iCloud, il y a quand même des gens qui préfèrent avoir toutes leurs photos sur
Ouais,
leur machine.
bon point.
Donc faites aussi attention à ça quand vous l'achèteriez. Et puis, du coup, au niveau des prix, ça commence à 1449 euros jusqu'à... Eh bien, jusqu'à, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas encore le prix des options, puisque les précommandes ne sont pas encore ouvertes.
Le
Ça
bouton,
sera le
ouais.
30 avril. Voilà.
Le bouton est grisé, effectivement. Alors,
Donc...
à suivre, puis à voir dans les premiers tests,
Ah,
c'est clair.
attends, quand même, le truc qui, moi, m'a fait sauter au plafond, c'est le nouveau clavier.
Bah oui.
Bah oui, on oublie d'en parler, mais quand même, c'est
Bah
super
oui.
important.
Bah oui.
Le Magic Keyboard qui accompagne l'iMac. Alors, il y a deux versions. Bien sûr, le modèle d'entrée de gamme n'aura pas le Magic Keyboard avec Touch ID, mais les modèles suivants l'auront par défaut. Sinon, bien sûr, sur le premier modèle, vous pouvez le prendre en option. Mais le Magic Keyboard qui évolue enfin, moi j'attends. J'ai une touche cassée sur mon clavier et j'attends depuis très longtemps de pouvoir changer de clavier. Et j'avais espéré qu'il y ait Touch ID à défaut de Face ID sur cet iMac. Bon, ça aurait été bien aussi, mais voilà, le Magic Keyboard avec Touch ID, donc ben, ça va vous permettre de rentrer des mots de passe, déverrouiller votre Mac, etc., sans avoir besoin de taper votre code. Vous allez pouvoir, avec votre empreinte, faire tout ça comme vous le faites déjà peut-être avec votre iPhone.
Et en
Oui.
fait, une petite précision, en fait, il y a même deux, trois claviers, puisqu'en fait, t'as un clavier standard avec donc un petit clavier court, mais tu peux aussi avoir une version avec pavé numérique si tu le souhaites.
Ouais.
Avec le Touch ID aussi.
Avec Touch et Touch ID, oui.
Magic Mouse,
Magic
clavier,
Trackpad.
Magic Trackpad, le fil en arrière. Vous avez aussi un fil USB-C vers Lightning qui sera compris dans la boîte. Tous ces accessoires sont de la couleur pâle. Moi, je trouve ça, c'est une erreur de goût, parce que clairement, je trouve dans mon image à moi qu'il ressemble. Vous savez, à ces couples qui s'habillent toujours de la même manière en pastel. Ben, je trouve que ça ressemble à ça.
Ah là là.
Ah là, c'est un biais psychologique, ça. Qu'est-ce qui
Là,
t'arrive?
alors,
achetez la
précision quand même.
version grise et collez le logo en avant, et là, je vais être heureux.
Alors, précision quand même, donc le Touch ID, je sais pas si tu as précisé, Audrey, mais il fonctionnera sur les autres Mac M1.
Absolument.
Mais pour le moment, Apple ne vend pas le clavier tout seul. Mais ça viendra, je pense que ça viendra dans le futur. D'ici la fin d'année, je pense qu'ils le permettront l'achat séparé, et puis voilà, quoi. Et je sais pas si tu as précisé par rapport au câble d'alimentation qu'il est magnétique.
Non, on en a pas
Non.
parlé. Oui, vas-y.
Voilà. Et alors en fait, tu avais même mis d'ailleurs qu'il était MagSafe. En fait, c'est pas vrai, il n'est pas MagSafe, il est juste magnétique. Parce qu'en fait, MagSafe, c'est le connecteur qu'on avait sur les MacBooks, et peut-être qu'un jour on va le retrouver, et qu'on a sur les iPhones maintenant aussi. Et le principe du MagSafe, en fait, c'est que tu peux exercer une légère pression, et puis hop, tu récupères ton appareil. Et typiquement sur les MacBooks, c'était génial, parce que ça évitait que quand tu te prends les pieds dans le fil, eh ben le Mac se tombe par terre. Donc tu enlevais le
Ouais.
pied du. Voilà, tu enlevais le câble et c'est tout. Il se détachait tout seul. Mais là, il est jamais marqué MagSafe, en fait. Il est juste magnétique. Parce que je pense qu'effectivement le but c'est pas qu'il se détache tout seul dès que tu te prends les pieds dedans. Donc en fait il est bien magnétique et un point que j'ai noté en fait c'est que l'alimentation elle est pas forte hein, en fait. C'est 143 watts. Sur les anciens iMac 27 pouces, ça montait à 295 watts. Et 160 watts maximum sur les 21,5. Donc finalement on consomme moins que l'ancien 21,5 avec un ordinateur en 24 pouces. C'est plutôt un bel effort aussi côté consommation d'énergie.
Bon point.
Moi, ce que j'ai trouvé ça bizarre sur un ordinateur de bureau d'avoir un câble magnétique, mais je me suis souvenu que de débrancher et de brancher l'alimentation des iMac, c'était vachement dur. La prise était vraiment dure. Là, je sais pas trop pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que c'est
L'argent,
pour
sûrement.
pas... Ouais, non, mais est-ce que c'est pas aussi pour ne pas devoir appuyer trop sur le devant de
Non, mais je
l'écran
pense qu'en
et de
fait,
risquer de déformer le...
Oh,
Bah, le
bon
problème, c'est
point, ouais.
que je pense qu'en fait, il n'y a surtout pas la place, simplement. Pareil, le connecteur d'alimentation, il est très épais sur le connecteur d'alimentation. Quand tu regardes un câble, le câble standard IEC, je sais plus combien, IEC 13, que tu as sur ton iMac, bah, il est quand même d'une profondeur assez importante. Et je pense que là, il n'y avait juste pas la profondeur suffisante avec l'épaisseur de l'écran, quoi. L'épaisseur de la machine. Comme le câble jack, hein, c'est pareil. Donc,
Oui,
du
c'est
coup,
ça, c'est pas
ben,
une prise, ouais.
je pense qu'ils ont fait ça, je vais pas dire par dépit, parce que c'est Apple, mais pour eux, c'est peut-être la meilleure solution, ouais.
Ben, 11 mm, donc
11 mm, c'est pas très épais.
ouais, c'est
Des
ça.
choix esthétiques, effectivement.
La technique, ouais.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis je pense que je suis un peu comme Audrey, là. D'après moi, ils l'ont mis de cette manière-là pour pas l'enfoncer comme un bourrin, pour briser
Ouais.
la vitre en avant, là.
C'est ça aussi. Ouais, je pense aussi, ouais, tout à fait.
Est-ce que vous pensez que, comme ça a été le cas avec certains iMac, que cet iMac pourrait servir d'écran?
Alors c'est vrai que c'est une fonctionnalité qui existait. C'était le ce qu'on appelait le Thunderbolt, le Target Display Mode à une époque. Ça existait sur les Macs. Ça a disparu avec les iMac Retina, curieusement. Je ne sais pas pourquoi. Et est-ce que ça pourrait revenir sur ces modèles? Ça n'a pas été annoncé en tout cas. Donc je pense que si c'était le cas, il l'aurait quand même un petit peu signalé. Donc je ne suis pas sûr que ça va arriver.
Parce que moi j'attends toujours un écran Apple abordable, on va dire. Parce que pas 4000 euros quoi. Donc bon, on va attendre alors.
Il y a un point important en fait dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a 7 couleurs d'ordinateur, mais il y a aussi 7 fonds d'écran qui sont assortis. Alors moi la question que je me pose, c'est est-ce que Apple va faire en sorte que quand tu installes ton Mac, il ait automatiquement le fond d'écran qui correspond?
Je suis sûr que oui.
C'est sûr.
Ouais.
J'espère qu'ils vont faire, parce que ça a existé, il faut savoir, en fait, les iMac en 99, quand vous achetez un iMac fraise ou un iMac mandarine, eh ben, quel que soit le système avec lequel vous restauriez, ils mettaient automatiquement le fond d'écran qui correspondait, et je trouvais ça tellement extraordinaire.
C'est magique. Ouais. Ah, non, mais c'est le genre de détail qu'on adore.
C'est le genre de détail qui tue, et je trouvais toujours génial sur les iMac.
Ouais.
Donc s'ils font ça, ouais, je serais très content.
Magnifique. Je pense qu'on a fait le tour hein, du iMac. Il est beau là. C'était des blagues. Je l'aime bien, mais je préférais avoir le logo en avant. On va dire ça comme
ça. Tu dis ça parce que tu as acheté un Mac Mini. Et voilà.
C'est ça.
Oui, qui devrait arriver bientôt, Monsieur UPS. Si vous nous écoutez, je vous attends. Dernier produit met un clou dans le cercueil d'une tablette. C'est pas un ordinateur. Le iPad Pro. Qui maintenant se voit équipé de la puce M1. Oui, la même puce qu'il y a dans un MacBook Pro, la même puce qu'il y a maintenant dans un iMac et dans un Mac Mini et dans un MacBook Air. Mais maintenant, elle va être dans le iPad Pro. C'est assez impressionnant. Audrey, je te laisse y aller. Moi, la chose que j'ai retenue, c'est qu'il va y avoir maintenant un Magic Keyboard blanc.
Salissant, tu veux dire. Ouais. Alors clairement cet iPad Pro pendant le keynote, moi j'ai clairement décroché parce que techniquement ils sont rentrés vraiment dans des détails que Pro. Peut-être seuls les professionnels de l'image vont comprendre. Donc en gros on a un super écran liquide Retina mini LED. Est-ce que je peux passer les détails techniques?
T'as le droit.
Ouais, j'ai le droit, merci.
C'était un petit peu compliqué, mais même quand tu... Enfin, je pense que, par contre, techniquement, oui, ça donnerait clairement une meilleure image. Hein. C'est l'image, en fait, c'est un principe que tu vas retrouver aussi sur les écrans XDR, donc l'écran professionnel. Donc, ouais, c'est un super écran, voilà. C'est juste au niveau de restitution de couleur, luminosité, etc. Ça va être le top du top de ce que tu peux trouver sur une tablette. Ça, c'est évident.
Voilà, donc l'iPad Pro devient encore plus pro, si on peut dire ça. Voilà. Il a la 5G. Attention, ils n'en ont pas parlé pendant des heures, mais ça peut être intéressant pour les gens qui bougent beaucoup. Le Wi-Fi 6. Le moment où j'ai raccroché, c'est quand ils ont parlé de cette fameuse caméra qui suit. Ouais. La caméra de l'iPad va suivre vos mouvements. Voilà, caméra qui recadre. Alors, c'est toi, Mathieu, qui a mis comme les Logitech? Ou c'est Guillaume, je sais pas.
C'est Guillaume, probablement.
Non, c'est toi.
Ah, ok. Non.
En fait, c'est qui le quatrième?
En fait, c'est comme... c'est moi. C'est moi.
J'ai raté.
L'idée des Logitech provient de mon passage à l'émission Tech Café, animée par Guillaume Vendée. Dans les notes de l'émission, Guillaume avait ajouté que Logitech faisait déjà ça. N'ayant pas utilisé cette information-là dans l'émission Tech Café, je l'ai reprise, je la trouvais tellement bonne. Alors, je voulais juste rendre à César ce qui appartient à César. Non, en fait, c'est que bon, le principe de caméra grand angle, c'est qu'elle va prendre plus large que ce que vous voyez dans vos visioconférences et va suivre les personnes avec l'intelligence artificielle en fonction de leurs mouvements, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de déplacer le iPad. Et c'est un peu comme les Logitech qui a Brio ou certaines caméras qui font ça dans des outils de visioconférence. Alors c'était juste pour faire un clin d'œil que ça existe déjà, mais au moins, c'est vrai que dans un moment ou dans un mode où on est plus en visioconférence, je dirais que ça fait du bien de pas avoir à toujours replacer quand on fait nos cocktails en visio, hein, nos vinoconférences, comme je les appelle, pour déplacer l'iPad pour parler à ses grands-parents ou à sa famille. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. C'est vrai que ça, c'est un usage qui ne devrait pas être que sur les pros. Ça devrait être sur tous les iPads. Tant qu'à moi, maintenant qu'on fait beaucoup de visioconférences, je pense que c'est un élément super intéressant.
Alors souvent, la plupart du temps, quand Apple met une fonction comme ça dans un modèle pro, tu peux être sûr que l'an prochain, ça arrivera sur les gammes grand public. En général, les fonctions comme ça, assez avancées, c'est plutôt d'abord sur les machines pro et après, ça arrive sur les iPads classiques ou voire les iPhones, on verra. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça la démonstration là, le gars est en train de cuisiner, il est en visio avec quelqu'un et du coup la caméra de l'iPad le suivait alors qu'il était en train de bouger dans sa cuisine et je trouvais que c'était bien démontré, c'était sympa ce passage-là. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que malgré ce nouvel écran, la 5G, etc., les prix ont pas trop bougé, je crois. On est toujours à 899 euros sur l'entrée de gamme 11 pouces et 2100,
C'est un peu plus cher en
oh,
fait.
128 gigas.
Ouais.
Ah, ils font toujours du 128 gigas,
Eh
mince.
oui.
Et par contre, on a du 2 Tera, ce qui est quand même
Ah, c'est énorme. Puis surtout,
assez
maintenant, tu
énorme.
as des capacités à 16 Go de RAM en fait. C'est assez
Pour les modèles de
exceptionnel.
Tera.
Pour les modèles de Tera. Et
Ouais.
d'ailleurs, faudrait que je vérifie, mais je crois que c'est la première fois qu'Apple annonce les quantités de RAM sur les iPads. Alors qu'avant, ils les cachaient un petit peu. Et là, maintenant, ils annoncent clairement la quantité de RAM.
Parce que c'est un M1, c'est pour ça, je pense.
Peut-être oui, parce que c'est vrai que c'est un M1. Mais c'est vrai qu'ils l'ont jamais fait pour les iPads précédents, alors que normalement, bon, ils pourraient effectivement dire ils ont 3 ou 4 Go de RAM, c'était quelque chose qui n'apparaissait pas. Là maintenant, ils l'annoncent. Et ça va dépendre en fait de la capacité de stockage que vous allez acheter, vous allez avoir plus ou moins de RAM.
Moi, étant un podcasteur, je suis arrêté. Et la même chose pour le iMac, quand on voit des studios qualité micro, j'ai un petit peu un frisson parce que je me dis, ben oui, je vais pouvoir faire une production de CD et les vendre après, tellement la qualité est bonne.
Ouais.
Faites attention quand même, là, ça reste des
C'est
démarches
du
commerciales.
marketage. C'est du
Voilà,
marketage, clairement.
Oui.
Non, non, en fait, après, alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'en plus, maintenant, c'est du Thunderbolt comme connecteur. C'est plus un connecteur USB 3 classique, mais c'est du Thunderbolt. Donc, c'est-à-dire que tu peux brancher aussi, théoriquement, des autres appareils compatibles Thunderbolt sur l'iPad Pro. Ça, je trouve ça assez intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé quand même la petite vidéo de Tim Cook qui se. Donc, on ne savait pas que c'était Tim Cook, mais qui rentre. Enfin, voilà, de quelqu'un qui, genre, Mission Impossible, qui allait chercher la puce à main, qui l'a subtilisé, puis qui en fait remontait dans les locaux d'Apple pour aller poser la puce à main dans l'iPad et qui révèle qu'en fait, il est Tim Cook. Alors, j'ai trouvé ça génial parce que voilà, c'était le côté, voilà, le big boss qui s'implique à fond. Et je pense que c'est pas innocent parce qu'en fait, je pense que Tim Cook a vraiment un affect particulier pour l'iPad, clairement. Et qu'il soit impliqué autant dans la fabrication de ce clip, j'ai trouvé ça assez magique, quoi.
Ouais.
Voilà, petit aparté.
Est-ce que on va bientôt voir, du coup, je suis sûre que certains vont installer macOS sur cet iPad M1?
Ah, c'est la grande question. Bah, Apple, ils ont répondu, ils ont dit non, hein.
Ça arrivera
Donc,
jamais, hein, parce que
ça n'arrivera
c'est
pas.
ça.
Ça n'arrivera pas, c'est pas prévu, c'est deux usages différents. Et pourtant, alors, l'iPad a quand même des limitations qui sont techniquement assez handicapantes quand tu penses au prix de l'appareil. Typiquement, le fait que quand tu branches un écran externe, tu puisses pas avoir autre chose que la recopie vidéo, sauf dans certaines applications qui ont été prévues pour. Là, c'est un truc sur lequel tu dis, bon, Apple, faudrait quand même qu'iOS, le prochain iOS, il soit capable de gérer ça, quoi. Enfin, iPadOS soit capable de se dire,
Ouais,
j'ai un
c'est
écran
clair.
24 pouces, que j'ai pas la même chose en plus grand. Donc, moi, mon problème avec l'iPad, c'est un appareil, techniquement, c'est extraordinaire. Quand tu vois ce que tu peux faire avec, enfin, je veux dire, c'est un truc qu'on pouvait même pas rêver il y a 20 ans, on se disait pas, quand tu vois, voilà, il y a 20 ans, c'était un iMac, t'avais une grosse boule sur ton bureau, t'étais content. Là, t'as un truc qui te tient dans la main et qui est un outil de science-fiction, littéralement. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voyait dans les films il y a
Ouais.
quelques années. On l'a entre les mains et ça fonctionne et c'est un truc qui est extraordinaire. La grande frustration, c'est qu'iPadOS, t'as l'impression à chaque fois qu'il dit, il y a tellement de choses que je pourrais faire dessus en plus que je peux pas faire et que je veux faire avec un Mac et je voudrais pouvoir les faire avec l'iPad. Donc, le problème, c'est pas tellement de dire faudrait mettre macOS dans l'iPad, faudrait juste que iPadOS soit un poil plus adaptable, enfin, adapté à des usages vraiment professionnels pour en tirer parti. Après, faire du pro avec l'iPad, il n'y a pas besoin de mettre macOS dessus, hein. Tu as des outils, LumaFusion, t'en as plein, Procreate, etc. Tu vois ce que tu arrives à faire avec, tu fais, ouais, ok, enfin,
Oui, je
c'est
disais
bon.
plus ça par rapport au fait que maintenant il y a une puce M1 dans l'iPad, donc
Oui, bah évidemment, tout le monde y pense, tout le monde te dit, ah bah c'est la même puce, voilà, mais c'est pas comme ça que ça marche. Pas chez Apple en tout cas.
Non, absolument. Mais depuis l'arrivée du dernier système d'exploitation sur macOS et le fait d'arriver avec une puce M1 qui est identique maintenant aux plateformes de travail, de productivité des professionnels, je pense que on va attendre la WWDC, mais il devrait avoir des éléments distinctifs niveau logiciel pour cet
Oui.
iPad-là, parce que sinon, faut légitimer à un moment donné ces prix-là. Et moi, personnellement, je n'attends que certains logiciels professionnels d'audio arrive sur Mac Pro, iMac en fait, iPad, excusez, il y a trop de i puis de Mac puis de Pro, sur iPad pour switcher complètement ma mobilité juste sur iPad. Je suis certain que ça va arriver. Le fait d'avoir dit aux développeurs dernièrement, dans la dernière année, vous avez 2 ans pour migrer vos applications pour les puces M1. Après ça, le next step, d'après moi, c'est, regardez, vous avez fait des efforts, mais on va vous ouvrir un nouveau marché que vous ne pouviez peut-être pas auparavant, c'est-à-dire l'iPad.
C'est possible aussi. Je sais pas quelle est la... J'ai des fois du mal à comprendre la stratégie d'Apple là-dessus. Le problème, souvent, en fait, les gens sont frustrés par l'iPad parce qu'en fait, ils restent sur des schémas d'utilisation classiques du PC. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas dire, bah tiens, il y a beaucoup de gens, tu sais, j'avais fait un article là-dessus sur mon blog, j'essaie de te le retrouver, où les gens, à chaque fois, disaient, ouais, mais l'iPad, c'est pas une utilisation pro parce que tu peux pas faire ci, tu peux pas faire cela. Et tous les ans, il y a une nouvelle raison pour laquelle l'iPad n'était pas pro. Ah oui, mais il y a pas Office. Oui, mais maintenant il y a Office. Ah ouais, mais il y a pas telle fonction, machin. Il y a pas tel truc, tu peux pas, donc c'est pas pro. Un outil professionnel, c'est ce que tu en fais. Tu peux avoir un ordinateur pourri qui te permettra de faire des textes qui seront peut-être le prochain concours. Enfin, tu peux pas juger sur la tronche de l'appareil de ce que tu vas en sortir, en fait. C'est aussi bête que ça. Aujourd'hui, quand tu regardes le concentré de technologie que tu as dedans, si tu as des applications qui savent tirer parti du fait que tu as un lidar qui te permet de faire de la 3D, etc., de la réalité augmentée de façon très très puissante, ils ont insisté sur la réalité augmentée, que tu as effectivement des micros de qualité studio, que tu as de la 5G, que tu as toutes ces technologies qui sont embarquées, un écran monstrueux, etc., et un appareil photo, comme je dis, c'est bien. Par exemple, un Mac, tu peux pas dire, bah tiens, je prends un plan, je dessine dessus, et puis je fais une photo, je dessine dessus, et puis j'envoie le résultat tout de suite par mail. Tu peux pas faire ça. Tu es obligé d'avoir des trucs. T'as aussi des limitations sur le Mac qu'on voit pas forcément à l'usage. Donc, le problème derrière, c'est les applications. C'est qu'est-ce que tu vas tirer comme application. Si tu restes sur le moule des applications classiques, effectivement, tu auras pas beaucoup d'usage de l'iPad. Et moi, par exemple, j'en ai pas beaucoup, parce que finalement, mon usage est assez classique dans ce que je fais avec un ordinateur. Mais par contre, à partir du moment où tu sors de ce cadre-là, que tu vas chercher les applications novatrices, et il y en a beaucoup sur l'iPad, là, tu peux effectivement changer la façon dont tu vas travailler, tu vas peut-être oublier, tu vas peut-être te dire que pour Office, pour écrire, tout le monde utilise Word, mais finalement, Word, c'est peut-être pas le meilleur outil pour écrire du texte à la chaîne. Il y a beaucoup d'applications qui te permettent de faire de la création, Ulysse, etc., ça existe sur iPad, il y en a plein. Donc, si tu changes ta façon de travailler, si tu changes ta méthode de travail, si tu t'intéresses un peu aux applications, tu pourras peut-être faire beaucoup mieux que ce que tu faisais avant. Mais si tu restes effectivement dans le carcan que il te faut Photoshop et il te faut Word pour bosser, l'iPad n'est pas intéressant, clairement. Je suis désolé, je suis parti un peu loin, mais...
T'as raison, parce qu'en fait, on en a déjà parlé dans un épisode avec Mathieu, et en fait, le problème, c'est nos usages et nos habitudes.
Bien sûr.
Donc, à partir du moment où on refuse de changer nos habitudes, on va dire non, c'est pas un produit pour moi. Ça, on en a déjà parlé. Et après, moi, ce que je trouve, pour moi, le point le plus compliqué de l'iPad, c'est iPadOS qui doit rester facile à utiliser pour le grand public et pour n'importe qui va se mettre à l'informatique aujourd'hui. Il y a encore plein de gens qui s'y mettent que maintenant. Donc l'iPad, c'est la... Moi, je vois ma mère, elle a eu des PC pourris pendant des années. À un moment, je lui ai dit, ça suffit, je t'achète un iPad. Maintenant, elle est super contente. Et elle trouve ça hyper intuitif et elle sait s'en servir, elle a même pas besoin de mon aide, enfin, c'est vraiment super bien. Donc il faut qu'iPadOS reste à la portée de tout le monde, mais les gens qui ont des usages avancés comme nous sont un peu frustrés parce que on n'a pas le mode multifenêtre, parce que voilà, il y a des choses qui nous manquent, mais parce qu'on est habitué à les avoir. Donc, je pense que c'est aussi une question de génération. Et nous, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on travaille sur des ordinateurs avec les multiples applications, les gestions des fenêtres, etc. Et quand on se retrouve sur un iPad, on a l'impression d'être un peu perdu, entre guillemets, parce qu'on ne retrouve pas nos usages habituels. Donc, voilà, pour moi, c'est ça qui est compliqué, je pense.
Il y a des habitudes à perdre. Enfin, voilà, comme je faisais des formations sur iPad il n'y a pas longtemps, en webinar, et comme je disais, l'iPad, il y a des choses dont vous n'allez pas vous occuper. Est-ce que les programmes, je les ai quittés ou pas? Est-ce que je dois gérer la mémoire? Non, ça, c'est des trucs que vous ne faites pas avec l'iPad. Vous le travaillez, et puis vous en occupez pas. Mais après, tu as des trucs qui sont super compliqués. On a déjà parlé du multitâche sur iOS. Quand tu mets deux fenêtres dans iPadOS l'une à côté de l'autre, le mécanisme est tordu. Enfin, faut être honnête, hein, c'est tordu.
Ça pourrait être plus simple.
Ça pourrait être largement plus simple. Donc, si t'as pas ces mécaniques-là, quand je commence à expliquer un peu le multitouch sur iPad, enfin le multitouch, pardon, sur iPad, pas multitouch, multitouch sur iPad, les gens au bout de 2 minutes, ils font, tu peux refaire le truc, et puis là, je leur dis, bah attends, je vais essayer de le refaire parce que je suis pas sûr non plus moi-même. Donc, bon, mais par contre, c'est vrai que l'iPad, tu peux rajouter un crayon, tu peux ajouter l'Apple Pencil, et ça te va te rajouter des fonctionnalités que t'avais pas avant sur ton appareil. C'est deux façons de penser. Peut-être qu'effectivement, moi, je suis encore en mode vieux con, j'ai 25 ans de Mac derrière moi, et du coup, bah, j'ai du mal à passer dessus. Maintenant, peut-être pour certaines générations, ça peut être plus simple. Mais après, il y a peut-être aussi, voilà. Moi, par exemple, je sais que j'écris très mal. Donc, par exemple, le Pencil, je trouve ça très joli, mais, vu que la reconnaissance d'écriture sur un iPad, je vais écrire 3 lignes, iPadOS, il va planter 3 fois, tu vois.
Ouais.
Donc, elle va désespérer, elle va dire non, je peux pas faire ça.
C'est un bon point. C'est pas parce que le pencil est là que nécessairement vous en avez besoin. Moi, je l'ai acheté et je ne l'ai utilisé que 3 fois. Alors, c'est clair.
Bah, ouais.
Et en même temps, quand tu vois quelqu'un qui sait l'utiliser, qui est capable d'utiliser, qui est capable de faire du dessin dessus, tu vois comment il me manipule, tu vas faire ah ouais, quand même, quoi.
Ouais, c'est ça.
J'aurais pas ce talent-là.
Je le veux.
Puis en fait, effectivement, comme tu dis, tu l'utilises 3 fois, tu fais bon, merci, bonne journée.
Non. Moi, j'utilise énormément le pencil, en fait.
Ouais.
Et je me suis remis au dessin grâce à ça, d'ailleurs. Donc,
je connais plein de gens qui étaient ravis de voir le pencil arriver, qui sont contents et qui peuvent l'utiliser, qui vont griffouiller, voilà, qui vont faire des petits graffitis, des petits doodles partout, et ils sont très contents que ça reconnaisse leur écriture et tout ça. Enfin, moi, c'est hors de question. C'est un usage que je ne peux pas faire.
Et vous savez que maintenant qu'on peut mettre des claviers avec des iPads, vous savez qu'il y a quelque chose que ça vous prend tous et toutes maintenant qu'on peut mettre des claviers sur des iPads, c'est d'avoir le guide du raccourci clavier sur iPad que Audrey a produit. Audrey, c'est quoi qui nous arrive? On peut faire des raccourcis sur iPad maintenant?
Alors en fait, c'est un bouquin qui est sorti là il y a quelques jours, que j'ai mis longtemps à écrire parce que là aussi, ça m'a fait remettre en cause pas mal de mes usages et pas mal de notions. Notamment, en fait, ce livre, il est majoritairement en 2 grosses parties. En gros, c'est quand même l'explication complète du clavier virtuel et des raccourcis qui s'y trouvent. Mais raccourcis dans le sens... J'ai réfléchi au terme raccourci et je me suis dit, le raccourci, c'est quand même quelque chose qui nous permet de faire telle ou telle action plus vite.
C'est bien.
Donc, il y a les raccourcis clavier sur iPad qu'on peut faire avec un clavier externe. Ça existe depuis que l'iPad existe quasiment. Et il y a plein de raccourcis clavier qui vont vous permettre d'éviter de tapoter votre écran tout le temps. Mais il y a aussi le clavier virtuel avec notamment plein de fonctions intégrées qui permettent de gagner beaucoup de temps juste avec le clavier virtuel déjà. Et si en plus, bien sûr, on a un clavier externe, ben là, avec les raccourcis, on peut quasiment ne plus du tout toucher l'écran avec l'accès complet au clavier. Enfin, voilà. Donc, dans ce guide que j'ai mis plusieurs mois à écrire parce que ça a été un travail de déconstruction par rapport au raccourci clavier sur Mac. Là, sur iPad, il y a plein de choses qui sont différentes et qui sont pensées différemment. J'ai eu des premiers retours de lecteurs là qui m'ont dit qu'ils se sont régalés. Donc, je suis contente. C'est toujours long et compliqué à écrire, mais quand on a les retours comme ça, ça fait plaisir. Donc, ouais.
Et faut en profiter parce qu'en ce moment il est en promotion. C'est quand même assez intéressant là d'en profiter. 4,99 pour connaître tout sur les raccourcis de clavier sur iPad. Ça c'est donné. Hein. Alors tous ceux qui écoutent Apple différemment, au prochain épisode vous n'avez pas acheté votre guide, il va y avoir des conséquences. C'est des blagues.
Comme diraient les nuls, même le prix vous fera rire.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est Mac Génération qui édite ce livre et je vais parler prix avec eux sérieusement parce que pour moi, 5€, c'est pas assez. je me dis, bon, il y a un moment, même si c'est un livre numérique, on peut peut-être discuter prix.
C'est très compliqué. Le prix des livres numériques, le problème du numérique en général, quand tu veux faire payer quelqu'un, faire payer quelque chose du numérique, c'est quelque chose de compliqué de toute façon. Et les livres, j'en ai fait pas mal aussi. Oui, faire payer des livres numériques, c'est un grand débat et c'est pas évident.
Et c'est difficile de trouver le prix, le juste prix. Voilà, ouais. Comme dirait, c'est ça, le juste prix entre, je l'achète aussi par soutien pour MacG ou pour moi-même, enfin voilà, ou aussi parce que ça, ça vaut ce prix-là, quoi. Donc 5€ en promo, et puis après ça sera 6, je crois. Enfin, 4,99 et 5,99. Donc achetez-le, c'est pas cher.
Achetez-le maintenant.
Pas cher, madame.
C'est le moment. Guillaume, tu joues au Lego.
Ah, moi je suis un grand enfant. C'est le problème. En fait, oui, ben j'ai toujours. En fait, moi, tu sais, je suis un enfant des années 80 et je suis entouré de plein de trucs, de Transformers, de particuliers. Et c'est vrai que j'aime bien jouer au Lego. J'ai racheté plein de jouets Lego que j'avais de mon enfance. En particulier les vaisseaux spatiaux, j'aime beaucoup.
Oui.
Et en fait, la question que je me posais, c'est est-ce que c'est vraiment toujours pour les enfants? Bon, la réponse est non. En fait, on le connaît hein, parce que ça fait des années qu'on voit maintenant des boîtes de Lego qui ont des prix qui tapent largement au-delà de la centaine d'euros.
16 ans et plus. Ouais.
Voilà, qui sont 16 ans et plus. Et donc, pour mon anniversaire, mon épouse m'a offert la navette, c'est la navette Discovery, je crois.
Oh.
Voilà, en Lego, elle fait plus de 2000 pièces. Et en fait, j'ai reçu la boîte, j'ai fait, mais c'est énorme, en fait. C'était aussi gros. Avec le télescope Hubble, mine de rien.
Wow.
C'est quand même pas n'importe quoi. Donc, j'ai monté ça pendant les derniers jours et c'est magnifique. Enfin, je pourrais la montrer, elle est vraiment magnifique. Et c'est vrai que bon, sur la boîte, c'est marqué 18. Hein. C'est même pas marqué 16, c'était 18.
Ah ouais, 18.
Donc, carrément. Mais en même temps, je trouve ça intéressant. Voilà, c'est un exercice, le Lego, que je trouve génial parce que c'est un retour à l'enfance et en même temps, c'est quelque chose qui peut être très sophistiqué. Ça montre un esprit, je trouve absolument génial des fois la façon dont les créateurs réussissent à contourner des fois les limitations. Et on a vu des trucs complètement fous ces dernières années. Enfin, voilà, une console Nintendo NES en Lego, ouais, avec l'écran, etc. Alors, j'ai pas acheté parce qu'elle était vraiment très chère, j'ai hésité, j'ai pas acheté. J'ai honte, j'aurais dû l'acheter, mais voilà. Et donc, effectivement, comme tu as montré, Matt, il y a aussi peut-être que c'est Audrey, un Macintosh Plus qui est sorti en Lego. Alors, il n'existe pas en réalité.
Il
faut voter sur la plateforme Lego Ideas. Voilà, mais pour un Mac, un Macintosh Plus à l'échelle 1-1, carrément, c'est un gros Macintosh, hein,
ah ouais,
mine de rien. Mais c'est vrai que voilà, moi, c'est un loisir que je pratique et que j'aime bien, et ça me détend, et en regardant une série en même temps, bah, je trouve que c'est parfaitement idéal.
Il y a un Lego qu'on m'a offert, parce que moi aussi je monte des Lego, j'adore ça, c'est le Lego créateur, c'est le Wally, qui était...
Ah oui, magnifique.
Et pareil, magnifique à monter, magnifique en déco, j'ai aussi le fameux bus, enfin pas le bus, le Volkswagen, là, si, c'est comme un minibus, là. Mm-hmm. Et celui-là aussi, presque 1600 pièces, je crois. Enfin, vraiment très bien conçu.
Ouais.
Mais c'est vrai que suivre... En plus, ça demande vraiment de l'attention et du suivi, ouais, parce que tu fais page par page. Et ça demande de la concentration, c'est...
Ah bah, si quand tu te retrouves 20 pages plus tard, tu te dis, ah, mais attends, cette pièce-là, elle était où? Oh non!
C'est ça. Ah, c'était 3 petits trucs et pas 4, voilà.
Et bah, moi, j'ai un magnifique vaisseau d'Avengers, le Hélicarrière du Shield, qui fait 3000 pièces, quasiment 2987 pièces, qu'on m'a offert il y a...
Waouh!
C'est mon ami Laurent qui m'a offert il y a quelques années pour mon micro.
Oh là là.
Il est magnifique. Et le Batwing aussi, qui est absolument sublime.
C'est ça, les enfants des années 80,
on est comme ça. Et en fait, c'est vrai que des fois, je me dis, c'est con parce que les jouets d'aujourd'hui, je les trouve pas forcément top, mais ceux-là, ça reste.
Ah, les Lego, c'est indémodable. Ouais,
et je vais fermer la boucle avec vous parce que moi, j'ai la station internationale que j'ai construite récemment.
Qui est très belle aussi.
Ouais, qui est effectivement très belle. Alors, bref, pourquoi on vous parle de Lego on est dans la partie inspiration, si vous ne l'aviez pas compris, qui finit l'épisode. Et ben, évidemment, il y a un Macintosh Plus en Lego qui risquerait d'arriver si seulement vous allez voter pour ça sur la plateforme Lego. Le lien est dans les notes de l'émission. Moi, je terminerai ma partie inspiration, actualité ou des choses qui font plaisir sur une annonce qui a été dans la conférence, c'est-à-dire l'annonce de la sortie de Ted Lasso 2 qui va arriver le 23 juillet. Guillaume, est-ce que tu as écouté Ted Lasso 1?
Alors, j'ai commencé à regarder, en fait, j'ai regardé il y a, je crois, une semaine ou deux, j'ai commencé la première saison, et en fait, j'ai trouvé ça plutôt pas mal, j'ai juste pas eu le temps vraiment de m'y mettre à fond, mais sinon, j'ai trouvé ça plutôt cool, ouais, effectivement, c'est assez original, le principe est assez foufou, et j'ai trouvé ça plutôt marrant.
Audrey, tu connais Ted?
Non, je ne connais pas, je vais regarder.
Alors,
j'ai plein de séries en retard.
Je vous conseille particulièrement cette série dans l'époque où on vit, où on est peut-être un petit peu plus morose, où il y a des choses un petit peu plus compliquées dans votre vie. Ted Lasso va vous montrer, en fait, un enthousiasme incroyable. C'est pas la meilleure télésérie du siècle de la Terre, mais c'est certainement la meilleure télésérie que vous pourriez écouter dans cette période et qui va vous donner le gros, gros sourire, la grosse banane pour continuer les prochains jours peut-être de confinement ou les prochains jours compliqués d'ici à ce qu'on soit libéré de ce satané virus. Et bon, ben c'est ce qui termine notre épisode. Je vais terminer ça avec Guillaume. Guillaume, si on veut continuer à discuter Lego, si on veut continuer à discuter peut-être d'aide au niveau des entreprises avec Apple, où est-ce qu'on peut te rejoindre?
Eh bien, sur Twitter, je poste plein de petites bêtises sur mon compte Twitter GGETE, donc GGET. Vous pouvez voir, bon, voilà, si vous voyez un Dark Vador marqué JET27, c'est moi. et sinon, sur blog.jet.net, qui est mon blog où je poste pas mal d'astuces en ce moment, plutôt justement à destination des entreprises et la gestion des produits, des logiciels sur Mac en entreprise. Et ben, pour tout ce qui est professionnel, sur jet.net/consulting, où là, ben, je propose mes services, nos services d'ailleurs, parce qu'on est une entreprise de plus d'une personne, on est trois. Voilà, des services à destination des entreprises divers et variés, suivi, gestion de parc, conseil, audit, etc.
Guillaume, c'était vraiment un grand, grand plaisir de faire cette émission-là avec toi. En mon nom, de toute l'équipe d'Apple Différemment, merci beaucoup.
Et, un plaisir partagé, je remercie encore pour l'invitation, impromptue presque, mais voilà.
Ouais, un peu en dernière minute, mais je me suis dit, allez, je tente.
48 heures même, ça va. Ça va.
Audrey, si on veut te suivre, si on veut suivre tes formations, si on veut ben, voir tout ce que tu crées et voir la maquette du prochain iMac qui devrait sortir, selon moi, on te retrouve où, Audrey?
Sur Twitter principalement, @AudreyCoulot, et sur mon site web formationapple.fr, comme d'habitude. Et toi, Matt?
Ne manquez pas ça. Oui, profduweb.com, profduweb.com. Vous retrouverez tous les liens qui vont bien et aussi les liens pour les autres podcasts que je fais, notamment ReLife Podcast pour l'amélioration du quotidien. Alors, si vous aimez tout ce qui est développement personnel, trucs de life hacking, des choses comme ça, ben, peut-être ce podcast-là pourrait vous faire plaisir. Et puis, ben, n'oubliez pas, avant de terminer, de raccrocher le podcast, avant d'arrêter le podcast pour écouter le suivant dans votre application, ben, d'aller mettre un 5 étoiles sur iTunes, pour Apple Différemment. On ne prend pas les 4 étoiles parce que habituellement, quand vous mettez 4 étoiles et moins pour Apple Podcast, Apple Différemment, votre iPhone explose ou votre tablette explose. Alors, ne faites surtout pas ça. Il faut absolument mettre un 5 étoiles. Je vous remercie de nous avoir écoutés, d'écouter mes niaiseries, mes stupidités, et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao!
Salut!
Ciao, ciao! Hey.